L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35. Et il est l'heure. Bonjour Bernard Vacherot.
Salut. Comme avant, tous nos amis. J'espère qu'ils passent de bonnes vacances avec un beau soleil et qu'ils sont heureux là où ils sont.
Ça doit aller bien. La dernière fois, vous nous parliez d'un gros de l'histoire de la scolarisation sur les Mérovingiens.
Oui. Je vous avais dit qu'on allait aborder le phénomène. Parce que les moines ont donc été les grands scolarisateurs.
On est dans l'histoire du monachisme, par les monastères, on est arrivé à rentrer dans la société civile.
Tout à fait, puisque ces derniers donnaient des éléments culturels, sociaux, d'éducation à nos jeunes hommes et, pour ce qui était démonial, à nos jeunes filles. Bon, alors, comment est-ce que l'idée est venue d'une scolarisation, non pas comme ça, en claquant du doigt, mais parce que elle préexistait déjà. Ainsi, par exemple, sachons bien que instruire une population rurale, restée des plus arriérés, au fond, et ancrée dans les ersatz des antiques superstitions, ainsi d'ailleurs que la noblesse, plus ou moins ignorante et barbare, n'était pas une gageure. Alors il a fallu mettre en place un enseignement adapté aux réalités des besoins concrets des uns et des autres, car les besoins ne sont pas les mêmes entre les deux couches sociales, en tenant compte, bien sûr, de leurs capacités réelles. Alors, moines et moniales cherchèrent donc un modèle à suivre ou duquel s'inspirer, et ils l'ont trouvé où ? Eh bien, dans le domaine de leurs prédécesseurs, à savoir la scolarité de type romain. Alors, présent en Gaule narbonnaise, c'est-à-dire surtout dans la région de Narbonne, donc en Provence et en Languedoc, depuis la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains ont conquis le pays des Abroges, à savoir le Dauphiné et la Savoie, environ vers 120 avant Jésus-Christ. Mais la conquête définitive de la Gaule eut lieu en 51 ou 50, bon, les historiens varient sur cette date, et c'est ainsi qu'apparut dans ces dernières années-là un homme connu sous le nom de Caius Julius Caesar, autrement dit Jules César. Alors Jules César, Caius Julius Caesar, est né en 102 avant Jésus-Christ. Il devint consul en 59 avant Jésus-Christ et commença la conquête des Gaules aux environs de 58 avant Jésus-Christ pour en terminer victorieusement en 51 ou 50 avant Jésus-Christ. Alors, il meurt assassiné le 15 mars 44 avant Jésus-Christ. Bon, c'est à Hirsius qui était son aide-de-camp, que César dicta l'ouvrage qu'on lui attribue narrant la guerre des Gaules et qui était intitulé « De bello Gallicorum », de la guerre des Gaules. Suétone, grand encyclopédiste et secrétaire d'Adrien, empereur entre 117 et 138 après Jésus-Christ, a confirmé tous ces faits dans sa vie, enfin, dans son ouvrage qui est intitulé « Vie des 12 Césars », en particulier dans la partie qui est consacrée à la vie de César au chapitre 25. Alors, il enseigne Suétone enseigne qu'à l'époque romaine, l'enseignement était important. Et dans l'Empire romain, les nobles romains et la bourgeoisie romaine voulaient s'instruire, étudier la philosophie grecque, parce que la culture grecque était très à la mode, la culture égyptienne, la culture persane, et s'intéresser aux mythologies de tous les pays, même conquis. Alors en particulier, ils s'intéressèrent aux religions juives, phéniciennes, syriennes, persanes, égyptiennes, et à leurs mythes ou mystères initiatiques. Et alors, ils ont même jusqu'à été copiés ceux de la Grèce antique. Les sciences de ces pays-là aussi fascinèrent les Romains, notamment la médecine égyptienne et arabe, ainsi que les mathématiques et la géométrie arabe. En architecture, ils se sont beaucoup inspirés de la Grèce et des pays arabes, auxquels ils empruntèrent d'ailleurs l'art de bâtir les coupoles, par exemple celle du Panthéon de Rome. Si vous allez un jour à Rome, ne manquez pas de visiter le Panthéon, qui est pratiquement le plus ancien bâtiment pour lequel on a utilisé d'ailleurs le béton armé. Car les Romains, par les Arabes, ont connu le béton armé. Alors, pour assimiler ces connaissances, il fallait des écoles. Ben oui, on n'apprend pas comme ça en dormant dans son lit, hein. Alors, il y eut donc à Rome des écoles, et par exemple, on pourrait citer celle du chrétien Justin le Martyr, qui est mort martyr vers 165, qui, apologiste chrétien venu de Palestine, s'opposa aux philosophes chrétiens et fonda une très importante école de philosophie, tellement importante même que des membres de la famille impériale en étaient les élèves. Bien. Alors, ces écoles, surtout fréquentées par les jeunes patriciens, nobles et bourgeois, tous citoyens romains, civis romanus sum, hein, étaient répartis en trois catégories de niveaux. Équivalentes, d'ailleurs, ces niveaux, à nos actuelles catégories, à savoir, allez, on va dire en gros, primaire, secondaire, supérieur. Comment les choses se passaient? Bon, ben, dès l'âge de 7 ans, l'enfant était confié à l'enseignement d'un littérateur. Qu'est-ce que c'était que ce littérateur? Il était qualifié de littérateur magister ludi, ce qui voulait dire maître qui apprend à lire, écrire, compter et de manière ludique. Oui, c'était des enfants, hein, il fallait donc adapter à l'enfance. Alors, les grandes familles, familles nobles, bourgeoises, tout ça, employaient un esclave savant à cet effet. C'est pourquoi d'ailleurs, ils aimaient sur les marchés d'esclaves acheter des savants esclaves, ce qui faisait que les marchands, les négriers, comme on dirait aujourd'hui, hein, de l'époque, recrutaient par exemple une, on va dire, des hommes et des femmes pour l'esclavage qui étaient de milieux intellectuels poussés. Alors, donc, dès l'âge de 11 ans, l'enfant qui avait donc évolué entre-temps, au moins de, aux mains de ses littérateurs, passait aux mains d'un grammaticus, c'est-à-dire grammairien, et étudiait les lettres classiques latines et grecques, l'histoire et la mythologie. Il étudiait aussi l'ensemble de la culture générale, alors dispensée aux jeunes Romains. Enfin, devenu adolescent, approximativement 15-17 ans, le jeune Romain devenait l'élève d'un rhétor, c'est-à-dire rhéteur. qui lui apprenait l'éloquence, la rhétorique, donc, et l'art de la déclamation, déclamer et à connaître les lois de la législation romaine pour être capable d'être éloquent, rhéteur, dans un tribunal. Existèrent encore d'autres écoles, alors celles-ci plus spécialisées, par exemple en art, en architecture, en musique, en médecine. Quoique, comme le passionnant ouvrage et article fait et écrit d'ailleurs dans des revues tarn-et-garonnaises par le docteur Michel Suspen, hein, qui est d'ailleurs colonel des sapeurs-pompiers à Verdun-sur-Garonne, bon, et savant numismate en même temps, et ce médecin a écrit une série d'articles passionnants sur l'histoire des écoles de médecine et montrant que précisément les écoles de médecine, au début, les Romains ne s'intéressaient pas à être médecins, c'était l'art des esclaves, les esclaves des soignés, point barre, c'est tout. Et ils ont compris que pour l'armée romaine, il fallait des médecins. Alors qu'ont-ils fait ? Eh bien, au lieu d'engager des esclaves qui risquaient d'être dangereux dans le corps militaire, on comprend bien pourquoi, eh bien, ils ont commencé de créer des écoles de médecine militaire, et à partir de là, des écoles de médecine généralisées pour tous.
Vous êtes en train de nous dire, en gros, que ça n'est que la faconde un peu libéralo-libertaire qui nous fait croire que c'est Charlemagne qui a inventé l'école.
Hein? Allez, je ne dirais pas ça, je dirais que Charlemagne a bien sûr poussé les écoles en France, en Gaule, mais enfin, il n'en a pas été le seul initiateur. Hein?
Bon, ça va nous, quand même nous permettre de prendre une petite respiration.
Absolument.
Sacré Charlemagne. On est avec Bernard Vacherot, on est au milieu d'une émission de CFM sur l'histoire du monachisme. On est en train de voir comment les militaires romains ont compris qu'il fallait avoir des soldats capables de soigner, et pas des esclaves, et donc il fallait former les médecins, voilà, et donc qu'il y ait une école pour ça.
Une école de médecine, et qui a d'ailleurs généré des écoles de médecine civiles, alors. Et puis, il n'y avait pas que la médecine, il fallait aussi le droit. Toute société a un droit juridique. Bon, et il y a eu des écoles de droit et des écoles sacerdotales religieuses. Ça, il y en avait déjà, d'ailleurs, parce que dans l'Antiquité romaine, n'oublions pas que les anciens membres du clergé romain avaient toujours eu, depuis les Étrusques, par exemple, des écoles sacerdotales. Hein. Alors, par la suite, c'est ce type de modèle scolaire que nous venons d'aborder rapidement, que a inspiré les moines et les moniales. Parce qu'il fallait bien, quand même, s'inspirer d'un modèle.
Il faut une formation des maîtres.
Exactement.
Forcément.
Il faut une formation des maîtres, et puis on va pas faire n'importe quoi, n'importe comment.
Oui, ça, surtout avec le mot règle qui vient toujours.
Exact. Et puis la pédagogie. Il y a un art de la pédagogie quand même. Bon. Alors, les Romains, durant leurs occupations de la Gaule, avaient créé, on vient de le voir, de nombreuses écoles où ils recevaient non seulement les jeunes enfants de Romains, expatriés, on dirait aujourd'hui les expats, installés en Gaule, mais aussi de jeunes Gaulois. Allez, vous avez tous lu Alix le Gaulois, hein, dans les bandes dessinées. Ben, Alix était un jeune Gaulois de famille bourgeoise, hein, de la région de Lugdunum, Lyon, et qui a bénéficié de l'enseignement romain, etc. Bon, une bonne formation, hein, avec son jeune copain Énac. Bon, alors, qui lui était d'origine étrangère, si on s'intéresse aux bandes dessinées, on le voit. Bien, alors...
Étrangère à quoi? À Rome et à la Gaule?
À la Gaule, oui, tout à fait. Hein, voilà.
Il y avait plus d'étrangers que de Gaulois, de toute façon, en Europe, à ce moment-là.
Il y en avait à peu près au moins autant.
Ouais, voilà.
Bon, c'est pour ça que... Quand on nous dit la Gaule romaine ou l'Empire romain était raciste, oui, il y avait du racisme, c'est évident, ce serait une absurdité de dire que ça n'existait pas. Enfin, ils n'étaient pas tous dans ce genre-là, hein, voilà. Alors, par la suite, il y a eu donc ces jeunes Gaulois, et qui ont même fini par acquérir, par l'embourgeoisement de leur famille, le titre de citoyen romain. Le but de cet accueil était d'opérer une lente assimilation de ces jeunes pour mieux asseoir progressivement la prédominance impériale de Rome sur toute la Gaule. Et oui, l'enseignement est quand même un moyen aussi de domination politique, ce qu'on appellerait de colonisation. Il me semble qu'une partie de l'histoire de France n'a pas dû oublier cela, étant donné qu'on enseignait dans bien des pays d'Afrique du Nord, par exemple, ou d'Afrique noire, nos ancêtres, les Gaulois. Bon, allez dire en Afrique noire que nos ancêtres, les Gaulois, faut quand même avoir une certaine audace.
Je pense qu'il y a eu un malentendu là-dessus. C'est quand on disait nos ancêtres, les Gaulois, c'est nous qui avons écrit le livre, quoi.
Exactement.
En fait. Exactement. Mais ce que vous dites, on le retrouve après. Bénur a fait une formation militaire romaine, Messala aussi.
Oui.
Plein de gens comme ça.
Heureusement que vous n'avez pas parlé de Messaline.
Non. Bon. Non, j'allais vous dire Moïse avec les Égyptiens. Presque toujours, les couches élevées, on essayait de les assimiler.
Ah ben, c'est une évidence. Hein. C'est une évidence. Hein. Alors, là-dessus...
On va pas faire le lien avec de quelconque ministre contemporain. Hein.
Non, si peu. Taquin, va. Bon, alors, ces jeunes Gaulois permettaient, une fois assimilés, d'assurer une gestion romaine des Gaulois et de mieux romaniser ainsi la Gaule. Cet aspect de la question n'avait pas échappé au moine et au monial en vue de remanier, en processus plus ou moins colonisateur, mais en vue d'une aide d'évangélisation du monde rural par l'évolution des jeunes et par l'instruction. Et oui, justement, l'instruction qui éduque, forme et libère, par la même occasion, ce que Jules Ferry, d'ailleurs, avait fort bien compris. Mais alors que les Romains, peu préoccupés, bien au contraire, par l'éducation des paysans, je dis bien des paysans, n'implantaient leurs écoles que dans les centres urbains importants, comme par exemple Trèves, Besançon, Autun, Poitiers, la cité des Pictavins, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Lugdunum, Narbonne, Arles ou Marseille, Massalia. Les monastères, eux, ont visé une toute autre clientèle, si je peux employer le mot clientèle. Ils ont visé le milieu rural, car ils voulaient d'abord civiliser et christianiser le milieu rural.
Alors ça, c'est très important de comprendre comment le milieu rural a eu accès à une forme de culture par le biais de la prédominance, on va dire, de l'imprégnation de la société des monastères. Mais c'est un sujet tellement intéressant qu'on est bien obligé de démarrer une nouvelle émission avec ça.
Et
ça
d'accord, veut dire, mon cher.
Et ça veut dire la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, avec
merci,
plaisir.
Merci Bernard Vacheron.
Ciao.
C'est tous les mardis à 12h35 sur CFM, Histoire et Religion, une émission avec Bernard Vacherot, curé de Caylus.